L'eau, normalement, c'est un bien naturel. On n'aurait jamais dû payer de l'eau, on aurait dû avoir de l'eau gratuite. Et là, on paye notre eau plus de 7 euros le mètre cube ici. Vous vous rendez compte ?
La mer à boire. La série sur la précarité d'accès à l'eau dans les îles bretonnes, réalisée par les étudiants et étudiantes en journalisme de l'IUT de Lannion. Épisode 1. Saint, l'île où l'on dessale l'eau de mer.
Il est 10h15 et ça fait maintenant 40 minutes qu'on est sur ce bateau. On aperçoit l'île de Saint très bien maintenant sur notre gauche. En effet, on dirait vraiment un rocher, un grand rocher géant qui sort tout juste de l'eau parce qu'elle est située qu'à 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer. C'est une île qui du coup n'a pas de nappe phréatique et n'a aucune ressource souterraine en eau pour alimenter ses habitants. Il y en a à peu près 270 à l'année et l'été on passe presque à 1500 personnes. Ce qui pose beaucoup de questions en termes d'approvisionnement et de gestion de l'eau au quotidien. Ce qu'on va y voir, en fait, principalement, c'est son usine de dessalement. Car pour alimenter ses habitants, cette usine, elle est permanente. C'est la seule permanente de France métropolitaine. Et il y a beaucoup de problématiques qui se dégagent autour de cette usine. Et notamment le coût de l'eau. Donc on part à la découverte de cette usine et de cette île.
Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît, arrivez dans quelques instants à l'île de Saint. Cale de Maine-Brial.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Didier Fouquet, je suis le maire de l'île de Saint depuis le mois de mars 2020.
Cette usine, elle a été créée en...
Le début des essais pour la désalinisation, c'était en 71. Jusqu'à arriver l'osmoseur, là, les derniers temps. Il y a une dizaine d'années à peu près.
Thomas Chiron est l'auteur d'une thèse sur l'accès à l'eau potable dans les îles bretonnes. Vous l'entendrez tout au long de cette série.
Technologiquement, à l'époque, c'était les ingénieurs des ponts qui décidaient, et notamment pour ces territoires-là. Le dessalement, la désalinisation de l'eau de mer commençait à... Bon, elle existait déjà pour les besoins de l'armée, etc., sur des bateaux, etc., et commençait à se développer. Et c'était une piste de réflexion pour venir justement pallier le manque d'eau sur ces toutes petites îles. Et la première, c'est Watt. Ça a été compliqué technologiquement, ça fonctionnait difficilement, ça coûtait très très cher. Et in fine, sur l'île de Saint, ils ont commencé, alors je ne me rappelle plus quelle était la première technologie, c'était des bouilleurs, ouais, c'était ça. Et là maintenant ils sont à l'osmoseur, l'osmose inverse. Donc c'est on passe l'eau de mer dans de la filtration et ça sort en fait les ions d'un côté, le chlore et tout, et l'eau presque pure finalement de l'autre. Et d'ailleurs, il faut la reminéraliser derrière pour la rendre potable.
C'est en compagnie de Didier Fouquet, le maire de Lille, que nous partons visiter l'usine de dessalement au pied du phare et rencontrer son gestionnaire, Alain Coïc,
on est parti.
Salarié de la mairie.
Alors on va par où ? Il y a plusieurs routes pour aller au phare. Il aurait pu y avoir le Lannes, mais ça va être vanté. La rue Abbé-le-Borne peut-être aussi, par ici on aura un peu moins de vent au début. Donc ce bâtiment-ci a été construit il y a une cinquantaine d'années, un peu plus même peut-être. Pour les pêcheurs, c'était une écloserie pour les homards. Par la suite, les bassins ont été loués à différentes années, surtout à des ostréiculteurs. Et donc jusqu'au moment où on a cherché des solutions pour dessaler l'eau de mer. Et donc depuis de nombreuses années, ces bassins servent à conserver à peu près les trois quarts qui sont loués donc à un ostréiculteur. Et l'autre quart, c'est donc pour stocker l'eau de mer et pour abriter l'osmoseur. Bon, on va aller voir Alain. Salut Alain.
Ça va ?
Très bien. Voilà, donc c'est ici qu'il y a l'osmoseur.
Pour 15 tonnes d'eau de mer, on récupère 5 tonnes 2 d'eau douce.
Tout commence par le pompage de l'eau salée dans la cale, à l'abri du phare. L'eau se décante ensuite dans des bassins de stockage avant d'être traitée par la machine, l'osmoseur. Alain ajoute ensuite des sacs de minéraux afin de la rendre potable.
On remplit l'eau, il y a 500 litres d'eau qui vont dedans et il y a 25 kg de produits de bicarbonate qu'on met dans le grand réservoir. Et ici, il y a le magnésium et le calcium qu'on met dedans.
Et ça, vous le faites tous les combien de temps ?
Pour le bicarbonate, c'est quand la machine tourne, c'est une fois par jour. Un sac par 24 heures.
Des minéraux utilisés en quantité et qui coûtent très cher à la municipalité. Importer sur une île des produits comme cela et toutes sortes de matériaux est un investissement conséquent.
Je crois qu'on est de l'ordre de 40% de surcoût en fait lié à l'insularité qui s'explique par le fait que les matériaux, les matériels, les gens qui travaillent sur les îles, et quand ça vient du continent, ils passent par un bateau, il y a des frais de quai, de transport, etc. etc. quoi.
Un surcoût que la mairie de l'île de Sein doit affronter seule.
L'île de Sein n'est pas rattachée à une communauté de communes. On n'a pas beaucoup d'argent, parce qu'on n'a pas de taxes locales, pas d'impôts locaux. Donc on a très peu de revenus. Et que donc, n'étant pas rattaché à une communauté de communes, nous sommes obligés, nous avons la compétence pour les déchets et l'eau. Donc c'est deux budgets annexes. Ce sont des budgets très lourds pour nous. Et donc tous les ans, on a du mal à les équilibrer par les recettes. Et donc on est assez régulièrement obligé de verser des subventions du budget principal pour équilibrer ces deux budgets. Voilà. Pour l'eau, déjà, nous avons une personne qui est embauchée, donc c'est Alain. Donc déjà, donc c'est un salarié, donc certains prix à payer. Nous devons changer les membranes tous les 3-5 ans. Mais la dernière fois que nous l'avons fait, il y a 2 ans, ça nous a coûté 28 000 euros les membranes. Donc c'est pas donné non plus. L'eau qu'on produit est pure, c'est H2O pur, donc il faut rajouter des minéraux. Donc on rajoute du bicarbonate de soude, on rajoute du calcium et du magnésium. C'est dans des sacs genre sac de ciment, là, de 25 à 30 kilos par palette. Et une palette de ce genre de produit, ça coûte dans les 8 000 euros. Et il en faut quelques-unes dans l'année. Là, Alain vient de nous envoyer un message, il a besoin de 30 sacs de chaque, donc... ça va nous faire 10 000 euros, ça. Et il en faut, comme je vous dis, plusieurs dans l'année. Donc c'est encore un investissement supplémentaire. À ces trois produits minéraux, on mesure aussi le pH de l'eau. Donc c'est assez constant, mais suivant qu'elle soit un peu acide ou basique, si on veut la régler, je crois que c'est 7,3, on est obligé de rajouter soit une base, soit un acide pour régler le pH à un niveau qui va bien.
Tous ces frais ont une incidence sur le coût de l'eau, plus de 7 euros le mètre cube contre 4,30 euros en moyenne en France. Un prix que Didier Fouquet cherche à diminuer. Le maire songe à s'allier à la communauté de communes de la Pointe du Raz pour obtenir de l'aide. En attendant, les habitants de l'île évitent quand ils le peuvent de boire cette eau. La plupart des maisons utilisent des citernes de récupération d'eau de pluie et ne consomment l'eau dessalée qu'en cas d'urgence.
Regardez la rue.
Rue des Fontaines.
Rue des Fontaines. Ah vous, ça vous intéresse, rue des Fontaines.
Exactement.
Il y a enfin une fontaine sur le lac de Sein. On nous a raconté des cracks.
Nona Barazer est propriétaire d'un gîte sur l'île, situé donc rue des Fontaines.
J'en connais qu'une. Elle est juste au bout, c'est à la place Sainte-Anne. Mais c'est, vous connaissez un peu la géologie de l'île. L'île de Sein est une plage perchée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est ceinturée d'une ceinture de granit. Et au centre, il y a par élévation, les mouvements des plaques, la plage est la remontée. Donc ici, on est sur du sable et des galets. Et tout autour de l'île, c'est du granit. Sauf certains endroits où vous allez voir, où il y a plein de granit, et là, on voit bien la coupe du terrain. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'elle fait l'eau douce, l'eau de pluie ? Elle va percoler au travers de ce filtre-là. Mais comme c'est du granit fissuré dessous, il n'y a pas de nappe phréatique ici. Donc, on oublie, il n'y a pas d'eau douce qui reste. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la mer à marée haute? La mer reprend ses doigts par en dessous de l'île, se mélange à l'eau douce qu'il y a, et ça fait une eau saumâtre. Donc, on a un puits d'eau saumâtre. Alors, on m'a raconté une histoire, c'est que autrefois, ici, il n'y avait pas de nom de rue. C'est, tout était oral, il n'y avait pas de nom de rue. Et puis la Wehrmacht, quand elle a occupé l'île, c'est pas possible. On s'en trouve pas la rue du Schmoll avec la rue... Allez, on met des noms à tout le monde. Toutes ces rues doivent avoir des noms. Et donc, ils ont mis rue des Fontaines par rapport à la fontaine qui était là-bas. Mais alors, les malheureux qui sont allés se jeter de boire de l'eau là-bas...
À la sortie du bateau, il nous a proposé de venir voir sa citerne.
Alors là, ce qui est intéressant, c'est la citerne. Ici, il y avait une famille qui vivait. Et là, en dernier, c'était une veuve, Elisa Piton. Et elle était toute seule. Et donc, c'était largement suffisant pour l'époque, parce qu'on consommait peu d'eau, en fait. Vous voyez, la gouttière, là, hop, elle ravitaille. Donc, ici la citerne. Vous voyez. Et moi, j'ai rajouté une petite pompe à main qu'il faut ramorcer. Et puis, comme ça, on peut rincer l'équipement de plongée. On peut, voilà, l'eau de pluie sert à ça ici. Je n'ai pas de filtre à charbon actif comme dans toutes les maisons que vous allez voir. Là, regardez, vous voyez la petite écoutille là. Ouais. Ça, c'est la descente à la citerne. Tout ça, c'est la grande citerne. Devant la maison, c'est qu'une citerne. C'est une immense citerne. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils ont fait des très grosses citernes pour vraiment avoir de l'eau, parce que c'est le gros problème ici.
François, un habitant de Lille, a également sa propre citerne.
Bon, c'est la pagaille, parce qu'on est en chantier depuis tout l'hiver. Hein. La citerne, elle est là. Et bon, il y a le filtre là, et l'eau tombe, et puis voilà. Et donc ici, on a une pompe qui nous donne l'eau de citerne. Et par contre, on a un compteur d'eau pour l'eau de ville, quoi. On appelle ça l'eau de ville, l'eau dessalée. Au cas où la citerne est vide, on a l'eau de ville. Je me rappelle le premier Osmoser, j'étais au conseil municipal, on avait été inauguré la première eau qui était sortie de l'Osmoser. Et puis pour la tester, on avait emmené du Ricard, on avait pris une cuite au Ricard pour goûter l'eau. Pour la petite histoire. Donc voilà comment ça fonctionne. Et par contre, pour boire notre eau, on a un filtre. Alors, hein. Et voilà, et pour boire l'eau, c'est un filtre comme ça. Voilà. Avec des machins dedans. Là, c'est des tuyaux céramiques que tu changes de temps en temps. Et vraiment, ton eau est nickel.
François Spinec est un ancien marin-pêcheur et sauveteur en mer. Il fait partie des fondateurs d'Île-de-Sein Énergie, une société créée en 2013 et gérée par des citoyens qui cherchent à mettre en place une énergie verte, propre et renouvelable sur l'île. Car si consommer l'eau dessalée coûte très cher, c'est aussi car l'usine fonctionne grâce au groupe électrogène de l'île, seul fournisseur d'électricité alimenté par du fioul.
Ça coûte de l'électricité de faire de notre eau, évidemment. Oui. Eh oui, mais vous vous rendez compte que le fioul, il vient d'Arabie Saoudite, je ne sais pas où, il a été pompé au moins 18 fois pour être brûlé, pour faire de l'électricité. Enfin, c'est incroyable. L'eau, normalement, c'est un bien naturel. On n'aurait jamais dû payer de l'eau, on aurait dû avoir de l'eau gratuite. Et là, on paye notre eau plus de 7 euros le mètre cube ici. Vous vous rendez compte?
Comment l'usine en fait ici qui existe, enfin l'osmoseur pour en fait transformer l'eau salée en eau potable,
oui.
Comment elle pourrait fonctionner autrement qu'avec du fioul?
Ah ben avec du renouvelable, on a un courant marin ici qui est exceptionnel, c'est-à-dire que avec deux petites turbines placées dans deux endroits différents, avec le circuit des courants marins qu'il y a autour de l'île de Sein, il y a une turbine, la marée diminue, évidemment, elle ne tournerait plus. Mais pendant ce temps-là, un petit peu plus loin, il y a un courant qui est très fort, qui a 2h30 d'avance sur ce coin-là. C'est-à-dire qu'on aurait toujours...
Une turbine qui fonctionnerait.
Qui fonctionnerait à plein régime.
Pour mener à bien cette transition écologique, Île-de-Sein Énergie a tenté à plusieurs reprises d'obtenir le soutien d'EDF, unique fournisseur du fioul. Suite à leur refus, et pour calmer la colère des habitants, l'entreprise a tenté de les subventionner en leur distribuant des ampoules. En 2014, EDF a même proposé d'offrir deux poules, un poulailler et un sac de grains à ceux qui le souhaitaient. Une anecdote surprenante qui fait sourire les Sénins. Depuis 2016, Île-de-Sein Énergie est en procédure judiciaire avec la multinationale, à qui elle reproche son inaction. Et c'est à l'international qu'IDSE trouve son soutien.
On a été à Bruxelles, on a été reçu par le haut commissaire à l'énergie, par des députés européens qui sont pour ce projet-là également. Et quand on avait mangé avec les députés, là, et puis on leur dit, ben là maintenant, on va y aller parce que... On va être reçu par le haut-commissaire à l'énergie. Ben, il nous regarde, mais comment vous avez fait pour aller... Ça, c'est un bunker, personne n'y va. Nous, on n'a jamais été. Ah ben, si, on y va. On ne vous dira pas comment on fait, mais on y va. Il y a un grand ascenseur, et l'ascenseur monte, et puis tu viens directement dans le bureau du directeur, là. Et puis, il nous reçoit. Et puis, il nous dit, Vous êtes le phare de la transition énergétique française. Et je vais vous dire pourquoi. C'est pour vous dire qu'on est pris très au sérieux au niveau européen. Depuis le début, on sait que la juridiction française, on n'avancera pas. Mais en faisant tout ça, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on soit transféré à la Cour européenne de justice.
De son côté, la mairie tente aussi de développer des projets d'énergie verte dans l'espoir de réduire sa consommation de fioul afin de baisser le prix de son eau dessalée. Le maire, Didier Fouquet, évoque un potentiel projet d'éolienne d'ici quelques années. Selon lui, les panneaux photovoltaïques présents un peu partout sur les bâtiments de la commune ont déjà permis de grandes économies.
Alors, le fait d'avoir installé des panneaux photovoltaïques déjà, 20% de la production d'électricité est fournie par les panneaux photovoltaïques. Et donc, on ne consomme plus 400 tonnes, mais 300 tonnes, ce qui est déjà pas mal. Et le fait de mettre une éolienne, eh bien, on devrait passer en dessous de 50 tonnes de fioul par an. Parce que l'éolienne devrait produire 50% des besoins associés au photovoltaïque. Et on a l'intention de continuer avec le photovoltaïque. On devrait approcher des 80 à 100% même dans les années 2030. Voilà.
C'était le premier épisode de La Mer à Boire, la série sur la précarité d'accès à l'eau potable dans les îles bretonnes, réalisée par Margot Arrivel, Asilis Podesserre et Louis Grignard. Supervision, Olivier Trédant, Philippe Gestin et Aurélie Fontaine. Musique et aide au mixage, Victor Blanchard. Dans le prochain épisode, Molène et l'accès à l'eau, une longue histoire.